Donc Medium, c'est l'histoire d'un écrivain et éditeur qui vit à Paris et qui passe la plupart de son temps à Venise, où il va se réfugier en fin de semaine. Vous dites la France, de toutes ses forces, refuse désormais l'histoire. Mais ailleurs, c'est pas forcément mieux. Alors pourquoi Venise ?
Parce qu'à Venise, vous avez des stratifications multiples qui vous sont cachées par l'exploitation touristique. Et c'est une ville énorme sur le plan des symboles. Tout ça vous est caché par un afflux touristique incessant, des biennales qui n'arrêtent pas d'art contemporain ou de cinéma. Et on a l'impression que c'est une ville-musée qui ne sert qu'à ça. Or, à mon avis, c'est une ville extraordinairement rusée qui sait se masquer derrière toute cette agitation dite culturelle. Et quand on la prend par l'eau, par exemple, parce que le narrateur fait beaucoup de bateaux à Venise et s'installe dans un quartier populaire à l'écart du côté justement de la gare maritime. Un quartier populaire où il est très tranquille, où personne ne vient jamais, vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien à acheter. Il n'y a pas de magasin. Tout le monde se concentre toujours sur la place Saint-Marc, etc. Vous avez une foule considérable qui cherche à acheter. Enfin, vous avez des vagues de touristes, beaucoup d'obésité si on est avec les Américains. Vraiment, c'est impressionnant. Ou alors les Japonais qui arrivent pour tout photographier, même ceux qui sont en train de manger, hein, avant de le manger, enfin, voilà. Donc là, c'est une Venise secrète, une Venise cachée. Dans cette Venise cachée, vous avez une histoire alors considérable, hein, qui date de Marco Polo. Vous arrivez à Marco Polo en avion. Marco Polo, c'est le premier qui va en Chine, n'est-ce pas ? Bon, donc, j'imagine toujours qu'est-ce que ça va être lorsque les Chinois, qui sont déjà là d'une certaine façon, vont s'imprégner de cette histoire, non seulement vénitienne, mais française, européenne en tout cas. C'est ça l'avenir, indubitablement. Hein, c'est pas seulement du commerce, c'est la confrontation entre des cultures très anciennes. Bon, et puis c'est la ville, qu'est-ce que vous voulez, où l'architecture c'est Palladio, où la musique c'est Monteverdi et Vivaldi, où la peinture c'est Titien, c'est Tintoret, c'est Tiepolo, les églises sont magnifiques, même s'il n'y a personne, moi je voudrais dormir dans les églises avec ces peintures. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Que tout ce qui est, paraît-il, mort, classé, est plus vivant, de plus en plus vivant, à mes yeux du moins, hein, que les vivants. Et les vivants sont comme des morts vivants, alors que toutes ces figures extraordinaires du passé, concentrées là, pas par hasard, parce qu'il a fallu des conditions considérables, c'est-à-dire l'eau, l'isolation, etc. Voilà. Donc, vivre intensément le présent du passé vous préserve de la dévastation, des agrégations de la marchandise.
Vous écrivez d'ailleurs « Je dois voyager mon corps pour attester qu'il est bien là où il se trouve, y compris dans le temps. Voilà. » Il est aussi question d'expérience de drogue, plus ou moins instructive. On a l'impression que vous avez besoin de vous perdre pour mieux vous retrouver, pour mieux tenir le cap à une époque où tout chavire.
Absolument. Il s'agit de ne pas chavirer. Autrement dit, de ne pas devenir fou comme le monde est en train de le devenir. Parce que vous avez là, dans ce livre, quelque chose qui s'appelle « Manuel de contre-folie ». C'est-à-dire, ce sont des observations pratiques et sur enquête de la façon dont le monde est désormais fou.
Justement, sur les premières pages, il est question de Montaigne et de son étrange désir de Rome, comme vous écrivez dans un article dans La Guerre du Goût, consacré à Montaigne. Tout cela dans le contexte de la réforme. Mais la Montaigne, quel rapport avec l'époque contemporaine ?
C'est le Bordelais, qui a été maire de Bordeaux tout de même, qui se rend compte que le monde est en train de changer sous ses fenêtres. On s'est gorgé sous ses fenêtres, c'est la guerre de religion. Les innovations calviniennes, ah là 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 là. Et alors, c'est étrange que Montaigne ait eu cette sensation si, si précise pour s'enfermer dans sa tour, lire et relire, et sans cesse relire, et citer ô combien hein, des citations. On me dit, vous faites des citations, mais Montaigne, alors à côté, c'est un déluge de citations grecques et latines surtout. Bon, il était tellement préoccupé par le fait que ça pouvait être une fin de la civilisation, qu'il est allé à Rome vérifier si le pape de l'époque, Grégoire XIII, quand vous dites que nous sommes en 2014, vous appliquez, que vous soyez chrétien ou pas, ça n'a aucune importance, ou catholique ou pas, ça n'a aucune importance, vous appliquez le calendrier de Grégoire XIII. C'est lui qui vous a fixé cette date, et vous ne pouvez pas signer un chèque d'une autre date. Ben, il y a eu d'autres propositions, notamment sous la Révolution française, mais si vous signez l'an 6, bon, vous êtes obligé de tout signer. Que vous soyez où vous voulez, vous êtes obligé de signer Grégoire XIII 2014. Donc, Montaigne est allé voir si le Saint-Siège conservait les livres latins et grecs. Il avait peur que ça disparaisse. Et il est même allé jusqu'à Notre-Dame de Lorraine dans un pèlerinage dont en général personne ne parle jamais pour accrocher un ex-voto dans la maison qui est censée être celle de la Vierge Marie, transportée par les anges, etc. En fait, tout ça, bon. C'est fabuleux. Donc, l'inquiétude que l'on peut avoir aujourd'hui est encore beaucoup plus vive, brûlante que celle qu'a eue Montaigne. Enfin, moi, je ressens ça exactement de la même façon.
Et pour penser le moment présent, vous faites donc appel à trois auteurs, Montaigne, qu'on vient de citer, Saint-Simon, Proust, surtout Saint-Simon, qui tous assistent à la disparition d'un monde et au surgissement d'un nouveau monde. Voilà, sauf que pour vous, la folie qui s'est emparée du monde a pris une telle ampleur qu'elle lui résistait plus que jamais un acte solitaire. Et quand vous dites « je suis devenu mémoire vivante », parlant français, c'est ça, non ?
Oui, c'est ça, exactement. Il y a une phrase de Kafka que j'aime beaucoup. C'est « je suis une mémoire devenue vivante, d'où l'insomnie ». C'est-à-dire, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que de devenir une mémoire vivante ? Saint-Simon, imaginez, à la bougie, hein, je ne sais plus combien de milliers de pages, il faut voir les manuscrits qui sont absolument extraordinaires. Proust, même chose. Oh, attention, on change d'air, là, il va y avoir quelque chose. Alors, ça a été la guerre de 14-18, et alors il meurt en 1922. Kafka, oh là 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 là, ouh. Je crois que c'est ça, la littérature. C'est vraiment une sorte d'hypermnésie lucide qui vous fait anticiper l'avenir et qui vous fait vivre dans un passé reconnu comme absolument vivant. C'est encore une fois, ce sont les vivants qui sont morts. Les morts sont beaucoup plus vivants. Il suffit de les ouvrir. Mais alors justement, le problème est de savoir si qui lit encore ou pas. Qui sait lire encore ? Ou bien si on passe son temps à communiquer par texto, par SMS, par rapide, par tweet. Hein, voilà. Et si vous tweetez, vous avez le sentiment d'exister en tweetant. C'est quand même très peu de choses.
Justement, vous évoquez l'évacuation de l'histoire, le contrôle par les moyens de communication, la confusion, l'argent fou. Ici, on vient d'apprendre que Dominique Strauss-Kahn sera désormais banquier d'affaires à la tête d'une société financière domiciliée à Luxembourg, à 200 mètres d'ici. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Ça m'inspire la plus grande admiration pour un prestidigitateur de cette envergure. Je ne parle pas de sexualité, ça n'a aucune importance. Ma fille Satou Diallo est oubliée, tout ça est réglé. Il sera mis hors de cause, bien entendu. Il sera blanchi, bien sûr, bien sûr. Pourquoi ne serait-il pas, d'ailleurs, prochainement, je connais des gens qui y pensent. Le prochain président de la République française, après le fait que Hollande conduisant mal son scooter, Strauss-Kahn arrive en mâle supérieur, dominant. Je trouve ça formidable, mais vous voyez bien qu'on vit chez les fous.
Autre personnage, Karl Marx est né à Trèves, qui est à une demi-heure d'ici, en voiture. Pensez-vous que les jeunes écrivains devraient davantage s'intéresser à l'économie et au monde de la finance en général ?
Bien entendu, puis s'il n'y a plus que ça. Donc, c'est encore une fois, il faut être capable un peu d'essayer de deviner l'envers de l'histoire contemporaine. Essayer de prendre tous ces discours en boucle, enfin, je ne sais pas, en France, c'est les municipales, ça n'arrête pas. Bon, il faut essayer de deviner ce qu'on vous cache. On vous dit, il n'y a que ça. Nous sommes dans le spectacle, comme a dit quelqu'un. La société du spectacle a ses lois. Le spectacle a ses lois. A ses lois de propagande, de mensonge, de dissimulation. Par conséquent, il faut être, si on est écrivain, on doit, comme Balzac, l'envers de l'histoire contemporaine, c'est quoi ? Écoutez, vous êtes en France. Vous ouvrez les médias. Vous entendez sans arrêt. Front national, 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 Front national. C'est bizarre. Puis alors, par la même occasion, vous entendez socialiste. Attendez, mais j'ai un rêve fou, j'entends national socialiste, c'est absurde, enfin, vous voyez. C'est sûrement pas, mais c'est pas possible. Enfin, remarquez, quand un journal comme Le Monde affiche à la une une lettre de Himmler, on peut se demander si ça va pas. C'est très curieux, une lettre consternante d'ailleurs, pour moi, montrant qu'un criminel de cette envergure écrivait des lettres complètement kitsch à sa femme en embrassant ses enfants avant de crier Heil Hitler. Enfin, vous voyez, c'est le médiatique, la presse, la radio, la télévision, les SMS, tout ça, c'est un tourbillon destiné à masquer quelque chose. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Un écrivain doit se demander ce que c'est fait pour cacher.
Mais la folie que vous décrivez, évidemment, va bien au-delà des simples manipulations financières, marché de l'art.
Par exemple, par l'usine des cadavres, vous prenez le chapitre, c'est-à-dire voilà. le recyclage des tissus humains.
Le trafic d'organes, le marché de l'art, l'industrie du sexe.
Oui. Je suis très attentif aux enquêtes sérieuses qui paraissent de temps en temps noyées dans l'information dissimulatrice. En général, les meilleures enquêtes sont anglaises, hein, je vous le signale, parce que c'est très très curieux. Ce sont les Anglais qui, les premiers, par exemple, ont sorti le dossier formidable de Katyn. C'est un type qui s'appelle Blokhin. Ils ont été les premiers à l'interviewer. C'est un vieil homme qui a raconté quand même combien il a fallu de vodka tous les jours. Enfin, c'était une balle dans la nuque, etc. Oui, pour tuer pratiquement toute l'aristocratie intellectuelle et militaire polonaise. Alors que vous avez un mensonge qui a été partagé par toutes les chancelleries pendant très longtemps. Donc, les grands mensonges historiques sont quand même tout à fait fascinants. Je prends cet exemple parce que on ne vous a pas parlé des camps d'extermination pendant des siècles. Maintenant, tout le monde doit en principe reconnaître que ça a eu lieu, etc. Donc, vous voyez, Staline, Hitler, le mensonge, Katyn, tout ça. Ouh là là, oui. Et puis maintenant, c'est encore tout à fait autre chose. On n'est plus au XXe siècle.
Enfin, la question, c'est comment échapper à la misère ambiante sans se reconquérir soi-même. Justement, vous parliez, ce qui est bien dans votre livre, c'est qu'on y trouve un manuel de contre-folie.
Oui.
Que vous venez.
C'est un peu des types manuels. Enfin, c'est-à-dire que c'est dans la pratique. Il faut s'exercer à rester lucide.
C'est un manuel de manœuvre qui sauve.
C'est la guerre entre l'individu et la dévastation générale. Voilà. Donc, ce sont des conseils donnés à quelqu'un qui a envie de vivre le plus librement possible.
C'est un manuel personnel, mais comme tout le monde peut en avoir un,
voilà.
Pour résister aux...
Si ça peut servir à d'autres...
Pour résister aux attaques, aux vertiges...
Oui, à tout.
À tout.
à tout ça, au bordel général. Encore une fois, sous le calme, dans les pays où nous vivons, sous le calme relatif. Il vaut mieux vivre ici, en ce moment, que, je ne sais pas, moi, en Crimée, en Ukraine, ou ce que vous voulez. Ouais, enfin, c'est-à-dire, tout le monde va finir par s'entendre sur tout. Mais avec des vies humaines fracassées. Bon, il y a des. Bon, partout, tout le temps. Au moment où nous parlons.
Pourriez-vous nous parler un peu de votre emploi du temps ? Une journée réussie dans la vie de Philippe Soler, ça ressemble à quoi ?
Ben, c'est une journée où j'aurais pu écrire à peu près à. Une journée très réussie, vous voulez. Moyennement réussie.
Journée ordinaire.
Moyennement réussie, c'est deux heures d'écriture. C'est très moyen, ça. À la main. Hein. Je vois mon écriture qui n'est pas exactement dans la rapidité qu'il faut. Une journée très réussie, c'est 7 heures. Pour faire 7 heures, il faut vraiment une discipline constante. Il faut avoir du temps. Une journée très réussie, c'est une journée où vous avez eu l'impression de prendre absolument votre temps. C'est-à-dire d'avoir été complètement gratuit. Parce que sans gratuité, il n'y a rien. Alors l'amour est important dans ce genre de choses, parce que si l'amour n'est pas gratuit, il n'y a pas d'amour.
C'est aussi à Venise que le narrateur fait la rencontre d'une jeune femme, Loretta. Mais il préfère entretenir le mystère sur la raison de sa présence à Venise ou sur ce qu'il fait dans sa vie.
Et n'oubliez pas l'autre, qui est encore plus importante.
Ada, oui, c'est vrai, la masseuse.
Le massage vu de l'intérieur par une spécialiste. Oui, il y a le moment où, bien que ce soit tarifable, ça devient gratuit. C'est ça qui est très intéressant.
C'est vrai. Vous êtes quand même un peu dans le retrait, vous dites pour ne pas les choquer. Est-ce que parfois vous avez l'impression que votre savoir terrible sur le monde n'arrange pas forcément toujours les choses ?
Je crois qu'il faut s'arranger pour ne pas être dérangé. Voilà. Donc c'est un savoir de marin. D'une certaine façon, vous voyez. Le type fait beaucoup de bateaux à Venise. On ne connaît pas Venise si on ne fait pas du bateau. De temps en temps, il ne dit pas quelle substance il prend. Pourquoi ? Parce que ça le change l'espace et le temps. Donc, vous mettez l'espace dans une dimension à laquelle il n'est pas habitué, et le temps aussi se dérègle d'une façon intéressante. Ça peut être raté. Si c'est réussi, c'est assez impressionnant. J'ai écrit un livre autrefois dans ma jeunesse qui s'appelait H. Le titre est quand même très déclaratif. Songez que personne ne m'a jamais interrogé sur ce que j'entendais par là, alors que H, ça parle tout seul. Hein, c'est le cannabis ou le merveilleux afghan noir que j'ai beaucoup employé à cette époque. Donc je ne donne pas le nom de la substance que j'emploie pour faire une expérience sur l'espace et le temps, parce que c'est pas le principal. Mais il est étrange que ça soit, par exemple, personne n'y fait jamais allusion. Alors, il y a des scènes très très précises. En bateau, le type s'en va, et au bout de 6 heures, il a vécu, enfin, dans un temps et un espace différent. Il rentre d'un peu bizarre quand même, voilà.